Le grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Gérard Collomb.
Bonjour.
Vous êtes ministre de l'Intérieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour vous interroger à mes côtés, Christophe Jacubicine de TF1 LCI.
Bonjour.
Et Guillaume Roquette du Figaro Magazine.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Dans cette émission, séquence droit de suite également, Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL viendra relayer les questions des internautes, des téléspectateurs et auditeurs qui vous ont écouté et regardé, monsieur le ministre, et à vos claviers, hein, donc tous sur RTL.fr, Twitter et Facebook. Un droit de suite aussi que vous pouvez exercer dès maintenant, Gérard Collomb, vous-même, puisque la semaine dernière, à cette même place, à votre place, il y avait Éric Ciotti, député Les Républicains, et qui a mis en cause votre capacité à gérer la crise de l'ouragan Irma. Il a estimé que vous aviez été absent, impuissant. Que lui répondez-vous aujourd'hui ?
Vous savez, quand on veut critiquer, d'abord, il convient de ne pas se tromper soi-même. Moi, j'ai écouté avec un peu d'amusement donc la façon dont il s'exprimait, puisqu'il pensait que le cyclone Irma venait des États-Unis. Non, il se trompait avec le cyclone Harvey. Les cyclones, comme en général chacun le sait, naissent plutôt du côté de l'Afrique, traversent l'Atlantique et donc prennent un peu de puissance. Non, ce cyclone, on le gérait en fait, on le regardait depuis déjà une semaine. Mm-hmm. Et donc, on regardait à la fois sa trajectoire et sa montée en puissance. Et avant même qu'il n'arrive sur l'île, on avait pris un certain nombre de dispositions.
Donc
je peux vous dire d'ailleurs ce qui est une mauvaise nouvelle, qu'aujourd'hui nous sommes en train de surveiller deux cyclones qui peuvent arriver sur Saint-Martin et sur la Guadeloupe. Et donc nous avons déjà hier soir pris un certain nombre de dispositions nouvelles au cas où ces cyclones viendraient à nouveau à passer sur Saint-Martin ou sur la Guadeloupe.
Des dispositions, y compris sécuritaires, pour prévenir d'éventuels nouveaux pillages.
Aujourd'hui, si vous voulez, vous devez avoir 2400 hommes sur Saint-Martin. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de pillages parce qu'il y a des forces extrêmement nombreuses, y compris, comme vous le savez, des légionnaires qui sont présents. Donc on va dire qu'à Saint-Martin, l'ordre est assuré.
Alors, il y a eu un mécontentement dans les îles. Il y a une autre forme de mécontentement qui s'est exprimée hier dans les rues, celle des policiers. Christophe Jacubicine.
Oui, Benjamin, la police grogne. On a vu effectivement ces manifestations appelées par des associations de policiers, pas par des syndicats. On voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux des témoignages d'une sorte de concours des matériels les plus dégradés, des commissariats les plus dégradés. Et puis, il y a des associations qui demandent à vous voir, des femmes de policiers. Qu'est-ce que vous répondez à cette grogne qui monte ?
Je dirais d'abord que même si le nombre des manifestants hier n'était pas significatif, puisqu'il y avait à peine 1000 sur toute la France, moi je prends en compte leurs préoccupations, parce que je sais quel est l'état effectivement de la police, de la gendarmerie aujourd'hui. Vous voyez, on subit encore les conséquences de la RGPP qui avait été mise en place entre 2007 et 2012.
Nos remplacements des départs à la retraite.
Qui avait vu le nombre d'effectifs baisser pendant 5 années. Alors depuis les attentats, on est reparti de l'avant. Et donc, si on est sur une base 100, par exemple, en 2007, on est descendu à un plus bas à 93, on est revenu à 99. Mais ça veut dire que malgré les créations de postes nombreuses dans les 2-3 dernières années, on n'est pas encore revenu aux chiffres où on était il y a en 2007. Et c'est vrai à la fois pour les effectifs et c'est vrai en même temps pour le matériel, les équipements. Et c'est là-dessus que nous travaillons.
Vous l'avez vu, ce livre noir, on l'a tous regardé, ou en tous les cas, il est accessible. Toutes ces photos montrant la dégradation des conditions de travail des policiers. Comment répondez-vous à cette urgence qu'ils vivent au quotidien ?
Alors, si vous voulez, il y a, à mon avis, dans ce qu'ils disent, deux choses très différentes. La première, effectivement, est sur les moyens matériels. La deuxième est plus sur le sens à donner à leur action et, je dirais, la confiance avec la population. Ils y sont extrêmement sensibles et j'en parlerai après. Sur les conditions matérielles, le président de la République l'a annoncé, le budget du ministère de l'Intérieur, dans une période quand même plutôt une période rieur, va augmenter de plus 6,8%. Donc vous voyez, c'est un effort considérable. Donc
vous nous le dites là, aujourd'hui, plus 6,8%.
6,8%, donc sur le ministère de l'Intérieur.
Et après une baisse en 2017, qu'ils doivent constater effectivement.
Ah, non, si vous voulez, il y a eu effectivement, comme d'habitude, une régulation budgétaire, mais ça se fait tous les années. Moi, je vous parle de BP à BP, hein. Enfin, pardon, budget de budget primitif à budget primitif, c'est-à-dire ce qui était annoncé et ce qu'on va faire pour l'année prochaine. Ça veut dire que ça ne tient pas compte de la régulation budgétaire que l'on a connue. Donc c'est une hausse nette. Oui. Sur le budget de la police, par exemple, il va augmenter de plus 1,9%, sans compter les effectifs. Vous savez que le président de la République a annoncé qu'on allait embaucher 10 000 personnes pour les forces de sécurité. Mmh. C'est, par exemple, sur l'année 2017, ça sera plus 1700 personnes. Sur l'année prochaine, 2000. Ensuite, 2000 et 2500 et 1500. Voilà la répartition qui est prévue sur le quinquennat.
Donc ça, c'est pour les effectifs. Mais ça, sur c'est le pour matériel, les combien pour ce allez-vous qui concerne, investir
pour ce qui pour concerne le matériel, nous allons avoir une augmentation de plus 5,4%. Parce que c'est là, effectivement, que dans les années qui viennent de s'écouler, dans les deux ans où on avait commencé à réaugmenter les effectifs, par contre, on n'avait pas amélioré fortement les conditions matérielles. Donc c'est 196 millions que nous allons consacrer, dont 50 millions. J'ai demandé que ces crédits-là soient déconcentrés de manière justement à ce qu'ils soient gérés au niveau local.
Les préfets.
Par les préfets, les DDSP, etc. De manière qu'ils sachent, en discutant avec les troupes, là où il faut effectivement agir, là où il faut mettre le coup de peinture, là où les WC sont dans un état piètre. Oui. Donc voilà, les gens vont pouvoir aujourd'hui répondre à l'attente que manifestent ces policiers. Et moi, je vais regarder partout. Je peux vous le dire que leur livre blanc, qu'ils me l'envoient, je vais l'examiner. Et là où, effectivement, il y a des manques cruciaux, on y remédiera.
Vous irez, par exemple, à Coulommiers. Le commissariat de Coulommiers, visiblement, décroche la palme des difficultés. Est-ce que vous irez voir ce commissariat en Seine-et-Marne ?
J'irai voir ce commissariat. Je sais qu'il est bourré de malfaçons. Nous avons déjà commencé à y remédier, mais j'irai voir moi-même, parce que je ne veux pas visiter comme ministre que ce qui va bien, je veux aussi visiter ce qui va mal. Vous savez, quand j'étais maire de Lyon, j'avais l'habitude. Les gens, quand je passais quelque part, les rues étaient super bien nettoyées parce qu'on avait nettoyé juste avant mon passage. Et moi, j'avais la mauvaise habitude, les samedis et les dimanches, d'aller voir sur place, regarder quel était l'état des rues. Et je peux vous dire que la terreur de mes services, c'était les lundis matins quand je revenais, parce que là, je leur disais, là, il y a ça
donc
qui va pas.
Donc vous allez faire des visites à l'improviste.
Moi, je vais faire partout. Et quand on me dit, par exemple, mais vous rentrez à Lyon, pourquoi ? C'est pour écouter ce que me disent les gens. Parce que quand vous êtes ministre, vous pouvez vous enfermer dans une espèce de tour d'ivoire où tout le monde vous dit que tout va bien. Ce qui est important, c'est de garder le contact pour savoir ce qui ne va pas.
Il y a des gens qui veulent vous revoir, des femmes de policiers, d'associations, et vous avez refusé pour l'instant de recevoir.
Alors, si vous voulez, mon problème est le suivant, vous avez des organisations syndicales. Moi, j'ai reçu, par exemple, vendredi, les organisations syndicales, diverses d'ailleurs, plurielles, de commissaires, d'officiers. J'avais déjà reçu les organisations syndicales représentant les troupes de base, et je veux continuer à dialoguer avec elles. Et je dis, par exemple, aux policiers qui trouvent que ces syndicats ne les représentent pas, pourtant ils sont divers, rentrez dans ces syndicats et puis exprimez-vous. Et si ça va pas, changer les représentants. Mais engagez-vous, pas simplement dans des actions ponctuelles, mais dans la durée, c'est ce qui est le mieux.
Il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris, Gérard Collomb, dans les chiffres que vous nous avez donnés pour votre budget de l'année prochaine. Vous nous disiez pour la police, l'augmentation du budget, un peu moins de 2%, c'est ça ?
1,9%, alors, mais si vous voulez.
Alors même que vous donnez un chiffre global de 6,8% pour le ministère de l'Intérieur.
Le ministère de l'Intérieur est vaste, comme vous le savez.
Je termine ma question, ce qui peut donner le sentiment que la police n'est pas la priorité, puisque le budget de la police augmente trois fois moins que celui du ministère globalement.
C'est pas en termes, si vous voulez, c'est pas en termes d'effectifs, parce que lorsqu'on regarde la masse salariale, évidemment qu'il va
mais
beaucoup
globalement,
augmenter.
Les priorités budgétaires ne sont pas à la police.
Si, si, ils sont à la police en particulier. Si vous voulez, aujourd'hui, quand je regarde l'évolution dans les dernières années, je m'aperçois, par exemple, c'est un sujet dont on reparlera peut-être sur la sécurité du quotidien, que par exemple les gendarmes en tablette numérique ont été beaucoup plus dotés que ne l'ont été les policiers. Et donc, au-delà des aspects immobiliers, un de nos principaux efforts va porter sur l'équipement en tablette numérique, de manière à faire de la police une police moderne.
Mais cette modernisation va prendre combien d'années, Gérard Collomb ? Parce qu'on voit l'état, en effet, du matériel. On a l'impression que ça va prendre des années, voire 10 ans.
Si vous voulez, sur la numérisation, je vous reparle...
Je parle du matériel, de ces sièges abîmés dans les voitures, de ces véhicules immobilisés.
Nous pensons, si vous voulez, que d'ici 2 ou 3 ans, nous aurons mis à niveau la police par rapport, par exemple, à l'effort qui a été fait dans la gendarmerie ou dans certaines unités.
2 ou 3 ans, vous nous dites. Oui. Donc avant même la fin du quinquennat.
Alors moi, je vais utiliser un droit de suite. Il a raison, Guillaume Roquette. Si vous faites plus 6-8 pour votre ministère et que la police n'a que 1-9, où va l'effort budgétaire important qui constitue 6,8%? Qui en bénéficie au sein du ministère?
Les 1-9, si vous voulez, c'est uniquement... C'est en ne comptant pas la masse salariale. Parce que la masse salariale, évidemment, elle continue à augmenter. Et les 10 000, c'est hors masse salariale que nous avons ce chiffre.
Alors, sur la grogne globalement vis-à-vis de ce budget commence à monter dans le
sur le budget global.
Commence à monter dans
celui-ci.
Le pays, tout à fait. Commence à monter globalement, puisque vous êtes un des ministres importants de ce gouvernement. Et il y a des manifestations qui sont annoncées, celles des fonctionnaires, on l'a appris le 10 octobre, les routiers qui envisagent de bloquer dès demain, puis ensuite le 25 septembre. On a une manifestation des insoumis de Jean-Luc Mélenchon le 23. Est-ce que vous pensez qu'il y a juste une incompréhension vis-à-vis de ce budget, ou est-ce que c'est un budget pour vous que vous qualifierez de rigueur ?
Lorsque vous découvrez qu'il y a 7 milliards qui ne sont pas budgétés, évidemment, vous pouvez avoir deux solutions. Soit vous continuez à mettre la poussière sous le tapis, mais il finit par y avoir une grosse bosse. Soit, effectivement, vous décidez de vous attaquer véritablement aux choses. C'est ce que nous avons décidé de faire. Quand notre pays voit sa dette augmenter chaque jour, alors même que nous savons que les taux d'intérêt d'ici 1 ou 2 ans peuvent remonter. Évidemment, si vous ne prenez pas les choses à bras le corps, cela ne marche pas. Et nous avons décidé, c'est peut-être la marque de fabrique, de prendre les choses à bras le corps et de transformer notre société.
Une question très concrète. Donc, Benjamin le disait à l'instant, il y a une manifestation de routiers prévue le 25 septembre. Dans le passé, ils ont déjà bloqué le pays. Est-ce que vous allez laisser les routiers bloquer les axes ?
Si vous voulez, il y avait déjà eu ce type de difficulté avant les vacances. Et ma collègue ministre des Transports, parce que moi je ne gère pas tout, avait assez bien débloqué la situation en discutant avec eux. Vous savez, ce gouvernement est à la fois un gouvernement qui prend des décisions, mais qui est en même temps de dialogue. Regardez, par exemple, sur les ordonnances. Tout le monde disait au début de ce quinquennat, lorsque le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait passer ces mesures, ça va être terrible. Puis on s'aperçoit que finalement, les syndicats ont une position plus raisonnable qu'on ne le pensait et qu'il y a un dialogue qui s'établit. Alors évidemment, ce n'est pas toujours ce qu'ils voudraient, mais ils comprennent petit à petit la nécessité de transformer le pays, parce que quand on a 3 500 000 chômeurs, on ne peut pas s'en contenter et évidemment, il faut aller de l'avant.
Mais vous demander aussi un effort très important aux fonctionnaires, le gel du point d'indice, le rétablissement de la journée de carence, la perspective de 120 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique, c'est contre tout cela qu'ils vont manifester. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous leur demandez trop à vos fonctionnaires.
Je vous signale que dans les candidats qui étaient en compétition lors de la présidentielle, il y en avait un qui disait qu'il allait supprimer 120 000 fonctionnaires et l'autre qui disait qu'il allait en supprimer 600 000 à 1 million.
Ça, c'était François Fillon.
120 000, c'est Emmanuel Macron. 500 000, avait dit François Fillon, pas un million.
600 000. Oui, 600 000.
Il avait modifié.
Ça dépend, si vous voulez. Ça dépend si c'était la primaire, là où il avait gagné, ou si c'était la présidentielle, là où il se présentait.
Est-ce que la comparaison doit être une consolation pour ce
Non. Mais si vous voulez...
Vous dites que c'est que 520 000, c'est pas beaucoup.
Moi, je sais qu'on peut faire effectivement des économies, mais non pas avec le coup de rabot, mais en mutualisant. Voyez, par exemple, moi, si j'ai construit la métropole de Lyon, c'était pour faire en sorte que sur le territoire de mon agglomération, il n'y ait plus une communauté urbaine et un conseil général, mais les deux fusionnaient ensemble. Et il y avait des gens qui faisaient les mêmes choses dans l'une et l'autre structure. Donc, nous mutualisons et donc nous pouvons, à partir de là, réduire le nombre de fonctionnaires. C'est ce qu'il faut qu'on fasse dans le pays, pas par coupe-somme, mais par effectivement un travail sur la réforme de nos structures.
Ça veut dire que ce mouvement social des fonctionnaires, vous considérez qu'il n'est pas justifié ?
Mais on va discuter avec eux. Voyez, par exemple, ils ont au cœur de leurs préoccupations le problème de la CSG. Dans le secteur privé, on est sûr d'être compensé, puisque ce sont les cotisations qui sont supprimées. Là, on ne le sait pas encore. Moi, je vais en discuter avec eux, puisque beaucoup sont dans la fonction publique territoriale et beaucoup dans le ressort de mon ministère. Je vais en discuter avec eux dans les prochains temps.
Ça veut dire vous pourriez, juste un point, c'est important, une revendication de leur part, vous pourriez, en quelque sorte, annuler cette augmentation de la CSG pour les fonctionnaires ?
Si vous voulez, en tout cas, il ne faut pas que ce soit les seuls se trouvent sans compensation aucune.
Ce qui revient à répondre oui à ma question.
Nous allons discuter avec eux et voir comment nous organisons cela.
Gérard Collomb, vous y êtes favorable, justement ?
Je discute d'abord avec les organisations syndicales, je tranche ensuite. Oui, mais mon opinion, vous savez, moi je suis quelqu'un qui à la fois veut suivre un cap et puis qui en même temps sait discuter, a le sens du dialogue et sait infléchir.
Donc il y a du gras à moudre pour les fonctionnaires.
C'est comme les grands bateaux. Si vous voulez, sur un grand bateau, donner un grand coup de barre, vous êtes sûr de vous planter. Si vous tournez doucement, vous apercevez au bout de quelques temps que vous avez changé complètement.
Donc rien n'est exclu. Vous parlez de mutualisation, mais il y a aussi une privatisation. En tous les cas, par exemple, dans les syndicats policiers, beaucoup sont émus de la privatisation des radars mobiles. Oui. Est-ce que ça, c'est une voie, un chemin que vous allez emprunter pour d'autres procédés et d'autres moyens de votre ministère ?
Il m'est arrivé, lorsque j'étais élu local, de privatiser un certain nombre de services. Moi, je suis pour un juste... par exemple, si vous voulez, sur ramassage des déchets, on avait un équilibre, on avait grosso modo 50-50 entre entreprises privées et régies publiques. Cela permet de manager les uns et les autres
et
de voir lesquels rendent le service public le plus efficace. Moi, je suis ni pour la privatisation totale, ni pour une espèce d'étatisation
totale. C'est le retour du Nini, Gérard Collomb. C'est le retour du Nini, fameux Nini.
Non, c'est l'équilibre, c'est le
Et vous avez vu que
c'est différent.
Il y a eu des exemples dans le passé, notamment les partenariats privés-publics dans les prisons qui ont dysfonctionné. On a vu des prisons qui ont été mal conçues, qui sont mal entretenues. Est-ce que ça, vous ne craignez pas que la privatisation soit un affaiblissement de la puissance publique ?
Ça, c'est les PPP. Et moi, je n'ai été jamais favorable au PPP. Moi, je considère qu'il faut travailler entre le public et le privé, mais pas sous forme de PPP. Vous voyez, quand j'ai construit le Stade de Lyon, il y avait d'un côté l'Olympique lyonnais qui construisait le stade. Je n'y mettais aucun argent. Et moi, je faisais les routes, l'accès. C'est-à-dire, il faut savoir... Qui fait quoi ? Si vous superposez les choses, ça ne marche jamais.
Est-ce que vous allez étendre les expérimentations sur les radars mobiles, comme vous allez le faire
en
Normandie ?
Oui, la première, si vous voulez, mise en application, c'est en Normandie. Mm-hmm. On va regarder si ça marche. Et si effectivement ça marche bien, nous allons le mettre en application. Parce que vous voyez, je me félicite que dans les deux derniers mois, juillet et août, le nombre de tués sur les routes de France est diminué. Mais on a eu 2 ans où cela, après avoir diminué, a augmenté de manière perpétuelle. Et donc, on ne peut pas, effectivement, avoir des centaines et des centaines de morts parce que les gens font des excès de vitesse, conduisent en état d'alcoolémie profonde ou bien ayant consommé du stup. Et donc, nous voulons contrôler davantage pour qu'il y ait moins de morts. Pas pour faire plus d'argent, pour qu'il y ait moins de morts.
Juste une petite question. Plus d'argent, mais en même temps, pour l'instant, ce sont le procédé que vous utilisez, hein, c'est d'aller ponctionner au moyen des radars. Est-ce que, par exemple, sur votre plan pour lutter contre l'insécurité routière, vous allez être plus dur sur la consommation d'alcool et descendre le taux d'alcoolémie autorisé? Est-ce que ça, c'est prévu dans votre plan à venir?
De 0,2 à 0, par exemple.
Exactement.
Pour le moment, on n'a pas décidé de bouger. Mais par exemple, moi, j'ai vu des accidents où, quand on regardait les gens, un, ils avaient grillé un feu rouge. 2, ils roulaient en ville à une vitesse excessive. 3, ils avaient un taux d'alcoolémie profonde. Et 4, ils étaient sous l'empire de sup. Eh bien, il me semble que quand vous avez réuni ces 4 infractions majeures, peut-être vous devez être plus, et même sans doute, vous devez être sanctionné davantage.
Sur la base du taux d'alcoolémie, vous dites on ne bouge
non.
pas. D'accord.
Ces nouveaux radars, si on a bien compris, et ces nouveaux contrôles, ce seront des contrôles cachés, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas annoncés comme un certain nombre de radars aujourd'hui.
C'est des contrôles qui sont dans des voitures embarquées. Et donc, ces voitures embarquées sont gérées par des sociétés privées. Après, l'amende, évidemment, est sous contrôle d'agents de la police ou de la gendarmerie. Ensuite, nous sommes même en train de développer des nouveaux radars dans les virages, par exemple sur les routes de montagne, pour faire en sorte que nous puissions contrôler dans des lieux qui sont particulièrement dangereux.
Ma question, c'était...
Parce que nous regardons où se produisent les accidents, quelle est l'accidentologie, et plutôt essayer de gérer là où, effectivement, on a quelques centaines de morts par an.
Est-ce que votre objectif de 2000 morts par an sur les routes, c'est celui que Manuel Valls avait demandé à son gouvernement à l'époque? Est-ce que vous avez toujours cet objectif-là, ou peut-être est-il encore moindre? Quel est-il, cet objectif?
C'est de faire baisser. Vous savez, moi, quelquefois, on disait le but n'est rien, le mouvement est tout. Le but est quelque chose, mais le mouvement est beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir quelque chose qui suit une certaine tendance, et nous, c'est ce que nous voulons réaliser.
Alors, Marie-Pierre Haddad, de la rédaction numérique de RTL, va nous rejoindre pour de premières questions des internautes et téléspectateurs. Une question, en attendant, sur la circulation à Paris. Vous avez vu la polémique qu'il y a actuellement entre la maire de Paris et notamment le préfet de police qui dit « Attention, les véhicules de secours ne pourront pas circuler dans Paris, nous sommes en alerte maximale sur le terrorisme. »
Parce qu'il y aura une voie unique.
Parce qu'il y aura une voie unique. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez l'impression que la maire de Paris agit par dogmatisme?
Moi, je ne veux me fâcher ici avec personne. Mais quand même, pour les véhicules de sécurité, faire en sorte qu'ils puissent circuler... sans doute, oui. Alors, ce que nous proposons, nous allons avoir les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Mm-hmm. C'est que plutôt que d'avoir un certain nombre de mesures partielles qui soient prises au coup par coup, on réfléchisse plutôt entre le préfet de police et la maire de Paris sur un espèce de plan global de circulation qui permette de prendre en compte les préoccupations des uns et des autres.
Mais vous savez bien que jusqu'à présent, ça n'est pas le cas, Gérard Collomb. Madame Hidalgo prend ses décisions dans son coin sans en référer au préfet de police.
Cas.
Donc
bien
vous
sûr.
Lui dites, il faut changer maintenant?
Je dis que, attention... vis-à-vis des Jeux Olympiques, il convient effectivement que nous puissions accueillir des millions de touristes qui vont venir dans Paris.
Vous êtes en train de dire qu'elle ne peut pas les organiser toute seule.
Et donc, que ça soit important.
Vous êtes en train de dire qu'elle ne peut pas les organiser toute seule.
Donc, plus de concertation, c'est ça que vous dites à la maire de Paris?
Moi, je suis toujours pour la concertation, même sur les sujets les plus difficiles. Il nous arrive d'avoir d'autres sujets sur lesquels nous pouvons être en désaccord. Moi, j'essaye d'appeler au réalisme.
Marie-Pierre Haddad, première réaction, Marie-Pierre, de ceux qui nous regardent et nous écoutent.
Sur les radars.
Presque, sur la police de proximité. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre. Alors pour les internautes, la création de la police de proximité, ou plutôt son retour, c'est une piqûre de morphine. Ça ne résout pas le problème de fond. C'est même du réchauffé pour Jean-Claude, c'est ce qu'il nous dit. Il trouve que c'est en décalage complet avec la réalité. Il y a aussi Mathilde, elle, qui juge que qu'avec la cassure sociale de notre pays, ça ne peut plus fonctionner. Et sur Facebook, on a aussi Eric qui veut une véritable force de frappe pour éliminer les gangs qui paralysent certains quartiers. C'est ce qu'il dit. Donc, dans notre société actuelle, est-ce que la police de proximité, c'est vraiment la solution la plus adaptée ?
Alors d'abord, je vais vous faire remarquer que je n'ai jamais parlé de police de proximité.
Ah ben c'est le mot tabou maintenant, le gouvernement.
C'est du quotidien. C'est
mais de police de sécurité du quotidien. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit à un moment donné, ce qu'on a fait avec la police de proximité, c'est demander aux agents de police d'aller jouer au football avec les gamins. Je constate que la situation aujourd'hui de la sécurité dans notre pays, n'oubliez jamais que moi je viens du terrain, donc je connais les choses, c'est singulièrement dégradé. Ce qu'il faut, c'est essayer d'adapter aux réalités la réponse de sécurité que nous voulons donner. Évidemment, dans telle commune de banlieue, où aujourd'hui vous avez des gens qui, pour le contrôle des stupes, s'affrontent à la Kalachnikov, ça ne sera pas la même réponse qu'il faut apporter à celle d'une ville moyenne, on va dire, où la sécurité est quand même moins dégradée qu'elle ne l'est ici. Ça veut dire réponse différenciée. Et nous utiliserons des moyens différenciés.
Mais plus une police de sanctions que de prévention, monsieur le ministre.
Ce que nous voulons, c'est qu'on revoie des gens sur le terrain. Et qu'il n'y ait pas simplement des interventions au coup par coup, mais qu'il y ait effectivement un certain nombre de gens qui puissent patrouiller, y compris dans les quartiers les plus difficiles, et donc faire en sorte que nous puissions porter une police que nous ferons plus efficace parce que connectée et qui sera plus proche de la population parce qu'elle aura ses outils. Je vous donne un exemple.
Avec quels, avec quels effectifs ? Parce que vous n'avez pas annoncé de chiffres sur les effectifs de la cette future police de sécurité du quotidien. Combien seront affectés ?
Si vous voulez, lorsque nous annonçons effectivement 10 000 policiers, 10 000 effectifs supplémentaires, la plus grosse partie de ces effectifs supplémentaires ira à la police nationale. Parce que, évidemment, c'est dans les grandes villes que se concentre aujourd'hui au maximum la délinquance.
Milliers, ça fait combien de police de sécurité du quotidien ? Combien
mais
vous allez mettre
c'est
de
les troupes actuelles qu'on va prendre et qu'on va redéployer avec une autre norme d'action. Si vous me permettez d'aller jusqu'au bout. Je disais qu'on allait doter de tablettes. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous faites un contrôle d'identité, vous êtes, si je puis dire, à main nue. Demain, vous aurez une tablette, vous pourrez vérifier. Si celui que vous allez vérifier, il est fiché, par exemple, FSPRT. S'il a été contrôlé 4 fois dans la journée, à partir de là, vous aurez une attitude différente. C'est-à-dire que vous aurez un policier qui sera connecté. De la même manière, nous allons équiper de caméras nos policiers. Et donc, il n'y aura plus cette espèce de difficulté qu'on a aujourd'hui, parce qu'il aura enregistré la scène. Et donc, on verra s'il a agi de manière, je dirais, régulière, proportionnée, ou si, effectivement, il y a eu des difficultés. Parce qu'il y aura ces polices connectées, il y aura des relations apaisées, c'est ce que je veux, entre la population et nos forces de sécurité.
Alors, on se retrouve pour en parler, pour parler notamment de la loi antiterrorisme qui sera bientôt au Parlement, dans un instant après une pause. A tout de suite.
Une envie de Peugeot, ça n'attend pas.
Votre meilleur ami vient de s'offrir une superbe Peugeot 208 au design dynamique, ultra connecté avec navigation 3D, parc assist avec caméra de recul. Et si vous lui demandiez qu'il vous la prête, on verra si c'est vraiment votre meilleur ami.
Pendant les irrésistibles Peugeot, pour l'achat d'une 208, Peugeot reprend votre voiture 2 900 € en plus de l'Argus. Portes ouvertes ce week-end. Offre valable jusqu'au 31 octobre, détails sur peugeotwebstore.com.
Lidl, enseigne alimentaire préférée des Français.
Allô patron, petit pépin ici.
C'est chez Lidl ?
Ah oui, et il faut le voir pour le croire. Hein. Demain et après-demain, ils font la barquette d'1 kg de poire Origine France à 1,39€.
1,39€
€1,39 la barquette d'un kilo de poire chez Lidl. Gros pépin, ouais. Là, tu te payes ma poire.
Très drôle, patron, hein. Mais c'est le vrai prix, hein.
Ce prix, là, on se prend.
Ah bah, en pleine poire, oui. On est mal, patron.
Très mal, ouais.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 60-70 en barquette ou 70-75 en vrac selon arrivage magasin. Variété William Vert, origine France.
Je veux rendre mes trajets plus sûrs. Réponse A, je me fais escorter par les forces de l'ordre. Réponse B, j'installe des néons bleus visibles à plus de 10 km. Réponse C3, j'opte pour le pack safety de série avec alerte de franchissement involontaire de ligne, alerte de pause et reconnaissance des panneaux de vitesse.
Pendant les jours C'est maintenant, nouvelle Citroën C3 avec pack safety de série est avec 1 800 € de reprise en plus de l'Argus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation.
Citroën. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Détails sur citroën.fr.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Gérard Collomb, donc la menace terroriste est toujours très élevée dans notre pays et une note alarmiste, Christophe Jacubizine, eh bien, a été publiée par vos services.
Oui, qui a été révélée par Le Parisien. Je voulais savoir, vous demander s'il fallait être inquiet, cette note qui révèle que des terroristes pourraient s'en prendre au train avec des déraillements et aussi d'empoisonnement de nourriture. Est-ce qu'il faut prendre ces menaces extrêmement au sérieux? Est-ce que vous êtes inquiet?
Gérard Collomb.
Mais la menace, si vous voulez, est toujours importante. Elle a peut-être simplement changé de nature. Vous voyez, au fur et à mesure que s'est réduit l'État islamique, il y a moins d'actions qui sont projetées directement depuis le front irako-syrien et donc qui sont organisées. Mais par contre, vous avez sur Internet un certain nombre de préceptes, de consignes qui circulent, vous listant, mais c'est à l'infini, tout ce que vous pouvez commettre. Et ça va de l'attaque au couteau avec des attaques plus sophistiquées. Vous avez vu, par exemple, avec le TATP, on vous dit d'aller dans les gares, on vous dit d'aller partout.
Mais le déraillement, c'est partie de ces menaces.
Je ne vais pas effectivement vous citer, parce que cela ferait peur, tous les lieux ou tous les objets dont les consignes sont données sur les sites de l'État islamiste ou ce qui en reste, il y a encore un appareil de propagande qui est assez sophistiqué.
Mais cette note-là, particulièrement...
Mais la note, elle recense toutes les mesures sur lesquelles il faut effectivement faire attention. Les trains sont visés, mais il y a d'autres cibles qui sont aujourd'hui citées par les notes que fait la DGPN. Et donc, chaque fois, si vous voulez, elle réactualise en fonction des sites qu'évidemment on va visiter, où on voit quelles sont les consignes, ce que nous devons faire. Et si je présente en ce moment une loi pour lutter contre le terrorisme, c'est évidemment pas pour rien. C'est parce que la menace est partout extrêmement importante et qu'il faut donc donner à nos services les moyens de travailler.
Alors justement, la menace est importante, mais une question aussi très concrète, monsieur le ministre. Il y a eu un attentat à Barcelone et certains des terroristes, on le sait, sont passés par Paris. Ce qu'on ne sait pas et ce que l'on ne sait toujours pas, c'est pourquoi ils sont passés par la France, qu'est-ce qu'ils y ont fait. Est-ce que vous avez une réponse à ces questions?
On saura dans quelques temps, à partir du moment où les autorités espagnoles nous ont envoyé le contenu effectivement des téléphones, ceux qui avaient borné lorsqu'ils étaient à Paris. Vous savez que par exemple à Paris, ils étaient passés deux fois vers la Tour Eiffel, une fois la veille, une fois le lendemain, et donc on connaîtra dans quelques temps, oui, parce que les services après exploitent de manière officielle, et c'est pour cela que nous arrivons à déjouer autant d'attentats, mais nous avons des besoins de moyens pour nos services.
Guillaume Roquette.
Vous parliez des défaites militaires de l'État islamiste qui, du coup, fait qu'un certain nombre de jeunes Français qui sont partis faire la guerre là-bas reviennent. Est-ce que vous en faites assez pour les mettre hors d'état de nuire?
Gérard Collomb.
Si vous voulez, il se trouve que nous travaillons avec les services de renseignement, je ne détaillerai pas, mais d'un certain nombre de pays, qu'en général, ils nous sont signalés lorsqu'ils reviennent. Et donc, aujourd'hui, dès que nous constatons le retour, ils sont judiciarisés Et la plupart du temps, s'ils ont participé effectivement à des actes de guerre sur le territoire irako-syrien, condamné le procureur Molins, du tribunal de Paris, chargé du terrorisme, évidemment une attention toute particulière sur ces returnees.
Vous ne craignez pas un afflux d'anciens combattants de l'EI dans notre pays dans les mois à venir?
Si vous voulez, ce n'est pas ce que l'on voit aujourd'hui. Par contre, ils peuvent effectivement quitter le front irako-syrien pour aller sur d'autres fronts. Et donc, nous surveillons l'ensemble des fronts. Vous voyez, par exemple, un des enjeux de la réunion qui s'est tenue sur la Libye à la Seine-Saint-Cloud, c'était de pouvoir faire en sorte qu'entre les deux parties, le gouvernement reconnu par la communauté internationale et puis le maréchal Haftar, il puisse y avoir une volonté commune d'éradiquer Daesh, de manière à ce qu'il n'ait pas les poches qui se constituent là. Mais après, le mouvement est plus international. On voit par exemple, nos services constatent que sont en train de se reconstituer des poches de la même inspiration sur l'Asie du Sud-Est et donc dans un certain nombre de pays, qu'à partir de là, on pourra retéléguider un certain nombre d'actions dans les pays européens. Donc oui, la menace est permanente et c'est pourquoi nous devons travailler union avec l'ensemble des pays du monde.
De votre loi antiterrorisme, la nouvelle loi, est-ce que c'est une énième loi, Christophe Jacubizi?
Alors justement, avec un exemple concret qui a ému certains cette semaine, cette possibilité d'avoir des zones de contrôle des papiers d'identité autour de 20 km de lieux de transit, par exemple les gares, ce qui placerait les grandes villes en fait dans une possibilité permanente de contrôle. Est-ce que c'est le retour des contrôles d'identité à tout moment?
D'abord, nous sommes aujourd'hui dans l'état d'urgence. Donc, dans l'état d'urgence, cela se fait de manière permanente. Là, nous ne serons plus dans l'état d'urgence dans quelques temps, mais nous prenons effectivement un dispositif de loi pour permettre de pouvoir continuer à contrôler nos frontières.
Donc on pourra contrôler.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, une réflexion de l'ensemble des pays européens, et je peux vous dire que ça a été un des premiers sujets de discussion de la réunion que nous avons eue la semaine dernière avec l'ensemble des ministres de l'Intérieur, avec le commissaire européen chargé de la sécurité, parce que évidemment que c'est les gens circulent à travers l'Europe. Alors, qu'est-ce que nous faisons?
Attendez, dans l'article... Juste Guillaume Roquet, parce que le reproche qui vous est fait, c'est de dire vous facilitez les contrôles d'identité pour essayer de prévenir les attaques terroristes ou l'entrée de terroristes, et du coup, vous allez aussi vous en servir pour lutter contre l'immigration clandestine. Est-ce que vous assumez, effectivement, que ce nouvel outil peut servir aux deux?
Si vous voulez, je crois que moi, je ne veux jamais confondre les problèmes. Il y a ce que nous devons faire sur le terrorisme, il y a ce que nous devons faire sur l'asile et l'immigration. Et je présenterai d'ailleurs dans les prochains temps un texte sur l'asile et l'immigration. Il sera spécifiquement sur ce sujet. Vous savez quelle est la grande ligne définie par le président Macron. C'est effectivement pour tout ce qui concerne les réfugiés, que ce soit sur les théâtres de guerre ou bien politique, là, droit imprescriptible. Par contre, pas d'immigration massive de type économique venant de pays sûrs. Ça, c'est pour l'asile. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrorisme. Et nous devons évidemment nous protéger du terrorisme. C'est pour cela que nous prenons 4 dispositifs principaux. 1, des zones de protection. 2, les fermetures administratives de lieux de culte qui seraient radicalisés. 3, des régimes de surveillance individuelle. Et 4, des régimes de saisie à domicile. Voilà, c'est là-dessus que nous voulons veiller.
En conscience, Gérard Collomb, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette loi est pour partie liberticide, qu'elle empiète sur les droits?
Si
c'est ce que vous dites, vous, le franc-maçon assumé, qui est attaché aux libertés fondamentales, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous allez loin, trop loin?
Moi, je pense que la sécurité doit toujours être assumée. Et qu'après, justement, c'est quand on oublie dans une ville, dans l'ambiance d'une ville, qu'effectivement il y a les mesures de sécurité, que l'on trouve une vraie liberté. Vous voyez, lorsque j'ai été élu maire de Lyon, moi j'ai attaché la première attention à assurer la sécurité dans ma ville. J'ai pris, par exemple, celui que j'ai embauché pour diriger ma police municipale, c'était le chef d'état-major de la police nationale, parce qu'il s'y connaissait. Et petit à petit, les gens ont totalement oublié qu'on prenait des mesures de sécurité, et dans ma ville, on a plutôt tendance à penser qu'on est dans une ville où il y a une liberté individuelle, une joie de vivre. C'est ce que nous voulons faire pour l'ensemble de notre société.
Donc vous n'avez pas d'état d'âme?
Si j'avais des états d'âme, je ne prendrais pas les lois que je propose. Je crois que l'on a essayé de trouver un juste équilibre entre sécurité et liberté. Vous voyez, lorsque, par exemple, sur les mesures qui sont, je dirais, les plus intrusives, lorsqu'on pénètre dans le domicile de quelqu'un pour faire des saisies, on a mis, on a conjugué à la fois le procureur de Paris, le procureur local et le juge des libertés de Paris, où on veut faire qu'il y ait un espèce de parallélisme des formes entre le procureur de Paris chargé du terrorisme et un juge des libertés qui connaîtrait parfaitement les problèmes de terrorisme et qui pourrait nous dire si ce que l'on fait est attentatoire aux libertés ou pas.
Guillaume Roquette. Vous avez parlé des projets du président de la République pour les migrants. Dans les projets, il y a l'ouverture de 7500 places d'hébergement supplémentaires d'ici 2019. Or, si je me souviens bien, vous disiez au début de l'été, attention, ouvrir de nouveaux centres et mettre de nouvelles places d'accueil pour les migrants, ça crée un appel d'air.
On veut faire deux choses en même temps. D'abord, c'est d'essayer de contrôler nos frontières. On en parlait tout à l'heure.
Y compris avec ces contrôles d'identité.
Et y compris, si vous voulez, en faisant en sorte qu'on ne pénètre pas sur le territoire. Vous voyez, par exemple, du côté de l'Italie, vous avez aujourd'hui, comme l'Italie a reçu par le passé beaucoup de gens, vous avez des gens qui se présentent aux frontières. On essaye de ne pas laisser pénétrer dans nos frontières. On ne reconduit pas, on essaye de ne pas laisser pénétrer sur les frontières. Ensuite, ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte qu'effectivement, on puisse éloigner. Aujourd'hui, quand je regarde le nombre d'éloignements qui a été fait en 2016, il a été baissé de 15% alors même que l'immigration augmentait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait plusieurs choses. Un, nous essayons de traiter avec un certain nombre d'États. Par exemple, aujourd'hui, 20% des places dans le dispositif national d'asile est occupé par des Albanais. Pays aujourd'hui reconnu par tous les autres pays de l'Union européenne comme sûr. Nous avons passé un accord avec le gouvernement albanais qui va nous permettre de faire des reconduites et nous travaillons avec eux. Et j'irai, si vous me le permettez, je termine. J'irai voir ce que nous faisons ensemble pour empêcher les arrivées et pour permettre le reconduit dans ce pays.
Je travaille aujourd'hui avec un
certain nombre de pays d'Afrique occidentale française pour empêcher que les gens arrivent sur le territoire.
Mais puisque vous nous dites que, un, vous essayez de bloquer les entrées, deux, que vous facilitez les expulsions, alors pourquoi ouvrez-vous de nouvelles places de centres d'accueil?
Et de nouveaux camps devront être ouverts dans le nord de la France.
Parce que c'est l'exemple que je vous prenais tout à l'heure sur les grands navires qui mettent un peu de temps à tourner. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un mouvement. Avant qu'on l'infléchisse, cela va nous prendre quelques temps. Sans doute,
c'est transitoire.
Mais je pense qu'en 2018, oui, mon but n'est pas d'ouvrir partout des centres d'accueil où les gens restent. Moi, ce que je veux, c'est que ceux qui sont venus là, se sont vus reconnaître le droit d'asile, puissent s'insérer dans notre société. Et moi, je ferai en sorte que dans nos budgets, on donne plus d'heures de français, plus d'heures pour leur permettre d'avoir un métier, de manière à ce que ces gens-là participent de notre société. Vous voyez, quelquefois, on s'aperçoit que, quand on regarde les phénomènes de la société française, qu'il y a des gens dont on a accueilli les parents il y a trois générations et qui ne se sentent pas insérés dans notre société, insérons d'abord les gens. Permettons-leur de se sentir des citoyens à part entière de notre nation et pas des gens qui sont marginalisés.
Alors, ça fait partie des sujets de société. L'intégration, il y en a un autre, Christophe Jakubiscine, qui fait actuellement débat.
Alors, peut-être avec le risque d'ouvrir de nouveau la boîte de Pandore, hein, le comité d'éthique a rendu un avis positif sur la généralisation de la PMA, c'est-à-dire l'insémination artificielle pour les femmes, qu'elles soient en difficulté de fécondité ou bien qu'elles aient envie d'un enfant seul ou dans un couple de femmes. La secrétaire d'État a l'air de dire que ça va être effectivement pris en compte et adopté par le gouvernement. Est-ce que c'est une bonne idée de rouvrir maintenant à nouveau ce dossier tellement sensible de la PMA?
Gérard Collomb. Pour Je rappelle que vous étiez opposé dans un premier temps à la PMA, puis vous vous êtes ravisé.
Pas du tout. non, mais attendez, moi j'ai eu à gérer la problématique du mariage pour tous dans une ville qui est assez sensible à ces questions. Et donc, j'ai essayé d'apaiser les choses et de faire en sorte qu'un certain nombre de parties de l'opinion ne se sentent pas prises à partie, remises en cause, je veux dire, dans leurs fondamentaux spirituels par ce que nous faisions. Et donc, je suis toujours sur la même position. Autant je pense qu'on peut accepter la PMA, autant je suis opposé à la GPA parce que c'est la marchandisation. Oui, les mères porteuses. Parce que c'est la marchandisation des corps. Et que demain, on verra des femmes pauvres de pays du tiers-monde porter pour des gens riches un certain nombre d'enfants. Je pense que c'est odieux, que c'est à nouveau du trafic d'esclaves. Et donc, j'y serai totalement opposé.
Sur la généralisation de la PMA, le fait qu'on puisse, grâce à l'insémination artificielle, faire des enfants qui n'auront jamais de père, ça ne vous semble pas poser de problème?
Gérard Collomb.
Ça pose sans doute un certain nombre de problèmes et il faudra mettre des garde-fous. Moi, je pense...
Lesquels?
Je pense qu'il faut effectivement... par exemple, sur, comme vous le savez, sur les donneurs qu'on ne retrouve pas à un moment donné, des gens qui, parce que vous êtes dans le même endroit et que vous recueillez beaucoup, puissent se retrouver dans les mêmes lieux, cousins sans le savoir, etc., etc. Donc oui, il faudra mettre un certain nombre de garde-fous.
Mais sur le principe...
Moi, je reconnais que ce sont des lois très, très sensibles et qui peuvent heurter
les consciences.
Mais
le moment, vous jugez, est opportun?
Pour moi, le problème fondamental aujourd'hui, c'est celui de vaincre le chômage de 3,5 millions de personnes.
Vous dites que ce sont des lois qui peuvent heurter les consciences,
oui.
Mais néanmoins, vous allez la soutenir si elle se fait?
Je proposerais que l'on puisse résoudre le problème du chômage avant de s'attaquer aux problèmes civilisationnels.
Donc, vous n'êtes pas, pas une priorité, donc pas pour 2018, comme l'a annoncé Marlène
Schiappa. Pour le moment, je n'ai pas vu ce projet porté dans le calendrier qu'on nous a donné. On verra bien pour la suite.
Vous dites que ce n'est pas une priorité.
D'accord. Donc pour Emmanuel Macron,
pour moi,
non plus.
La priorité, alors, elle est aujourd'hui toujours économique et sociale.
Alors ça, Emmanuel Macron l'a certainement entendu. On verra ce que donnera le calendrier. Emmanuel Macron, justement, vous le connaissez bien. Vous êtes l'un de ses proches. Vous l'avez soutenu très rapidement dans sa conquête du pouvoir, auquel il a finalement accédé. Aujourd'hui, on voit que son impopularité est très importante, plus importante que celle de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, au même moment de leur quinquennat. Qu'est-ce qui cloche pour Emmanuel Macron? Est-ce qu'il en fait trop dans sa com, par exemple? Est-ce qu'il n'a pas les bons mots quand il parle de feignant? Qu'est-ce qui ne va pas?
Non, je crois qu'il s'attaque au vrai problème. Et donc, quand vous vous attaquez au vrai problème, sur, on va dire, les 3-4 premiers mois, évidemment, vous heurtez plus que si vous ne faites rien. Moi, je me souviens, j'étais sénateur dans le quinquennat précédent. Et donc, je me souviens jusqu'à la fin du mois d'août, il n'y avait pas une seule mesure qui était passée, qui était venue en discussion. Il n'y avait pas eu de session extraordinaire. Donc, on était dans la torpeur de l'été. Tout le monde était tranquille. Évidemment, tout allait bien. C'est après que ça s'est compliqué. Et donc, moi, c'est mon expérience passée. Moi, les problèmes difficiles, je les attaque toujours au début d'un mandat. Et puis, si ça porte ses fruits, si ça se traduit dans la vie quotidienne des gens, à ce moment-là, vient un moment donné où l'opinion commence à être en adhésion avec vous. Mais évidemment, il faut que ça se traduise dans le quotidien, et donc on pourra juger dans un an si vous, dans leur quotidien, ouais, les Français vivent mieux ou bien s'ils vivent plus mal. Et c'est comme cela que nous serons jugés.
Mais vous qui êtes un homme mesuré, vous nous avez dit « je fais attention aux équilibres », est-ce que vous trouvez que ces propos sont parfois excessifs, notamment sur les feignants? Est-ce que vous lui dites « Emmanuel, fais attention à ton langage ».
Comme vous le savez, le mot est extrait d'un discours que je vous invite à relire dans son intégralité, parce que il ne visait pas les citoyens français. Il vivait un certain nombre de gouvernants, et il faisait large depuis une quinzaine d'années, qui ne s'étaient pas attaqués au vrai problème. Et donc, je concède que le mot pouvait paraître dur, mais effectivement, c'est vrai que depuis 20 ans, on ne s'est pas attaqué au vrai problème. Si aujourd'hui, la France est totalement désindustrialisée, que lorsque vous avez un début de croissance, ce sont les pays étrangers qui vendent chez nous, et que l'on voit notre déficit de la balance commerciale augmenter de manière absolue. Enfin, on a 50 aujourd'hui milliards de déficit, quand par exemple l'Allemagne est à plus de 170 milliards. C'est hallucinant.
Juste une question, et après les questions de Marie-Pierre Haddad.
Très courte, la semaine prochaine, sur les élections sénatoriales, est-ce qu'il faut s'attendre au premier échec électoral d'Emmanuel Macron?
Le résultat des sénatoriales, il est mathématique. Ce sont les scrutins d'avant. Et les scrutins d'avant, c'était des scrutins à la fois municipal, cantonal, régional, où d'abord, un, En Marche n'existait pas, et deux, où la gauche a subi des échecs terribles. Donc, évidemment que ça ne peut pas être formidablement porteur. Vous voyez, par exemple, lorsque je regarde la métropole de Lyon, nous avons dû, on n'est pas soumis à renouvellement.
Il y a beaucoup de marcheurs,
mais c'est pareil
les socialistes
dans
lyonnais,
tous les territoires. Ouais. Je veux dire, on a perdu les deux tiers des municipalités. Donc vous ne pouvez pas avoir des gens qui tout d'un coup se mettent à voter pour des marcheurs.
D'accord. On verra la semaine prochaine, l'élection a lieu
dimanche
24.
Mais il peut y avoir quelques bonnes surprises. Moi j'ai par exemple, comme collègue, Madame Gouraud. Moi je suis sûr que Madame Gouraud, elle va gagner sur Paris. On va gagner des sièges. Je vois un de mes amis, un candidat au sénatorial. Il va gagner son siège. Ben voilà, il y aura quelques bonnes surprises. Mais après, il y a le côté mathématique des choses.
Marie-Pierre Haddad, les réactions dans cette deuxième demi-heure des téléspectateurs et des auditeurs.
Alors, il y a eu beaucoup de réactions sur le cas de Salah Abdeslam. Donc, un juge a décidé d'alléger les conditions de détention de Salah Abdeslam en raison de sa santé mentale. Et les internautes sont scandalisés.
Salah Abdeslam impliqué dans la
exactement. Donc, on a Jean-Baptiste sur RTL.fr qui trouve qu'on marche sur la tête. Il ajoute « La justice semble se préoccuper bien plus des conditions des justiciables que des victimes. » On a Jean-Yves qui s'indigne aussi, qui demande « Se préoccupe-t-on des victimes et de leurs familles ?» Et Benoît, lui, qui espère que ces conditions de détention resteront très strictes. Et Marie, elle, trouve justement que l'humain ne doit pas laisser passer, enfin qu'il ne faut pas, pardon, laisser passer l'humain, il ne faut pas laisser sa santé mentale se détériorer, parce que nous ne sommes pas des terroristes, elle dit. Donc cet aménagement de peine qui a été décidé par la justice, est-ce qu'il vous gêne aussi?
Alors, si vous voulez, de manière générale, on parle souvent dans notre pays atteinte aux libertés. Moi, je pense, et on dit, voilà, telle mesure, liberticide, etc., etc. Moi, je pense que ce dont on doit s'occuper en priorité, c'est d'abord, évidemment, les victimes dans ce genre de problématiques. Quel est le problème particulier? C'est que on veut qu'il puisse témoigner à son procès. Et donc, d'ici son procès, il ne meurt pas en prison. Et donc, il a des mesures aujourd'hui qui sont d'une extrême dureté, parce qu'effectivement, on le surveille 24 heures sur 24, il avait des fenêtres vitrées, etc. Et l'état, on va dire, psychologique, est en train de se détériorer. Et donc, demain, on ne veut pas quelqu'un qui puisse jouer la folie devant, justement, ses victimes. On veut qu'il puisse les regarder et qu'elles puissent le regarder. et effectivement lui dire que c'était un monstre, que ce qu'il a fait, c'était monstrueux. Voilà ce qu'on veut essayer de faire.
Donc cet aménagement de peine, vous le validez, vous n'y voyez pas d'objection particulière.
Donc moi, je pense qu'il faut effectivement l'amener à son procès. Alors ce n'est pas moi qui suis en charge du dossier, donc ce n'est pas moi qui ai vu quel était son état, moi je ne le connais pas, mais c'est en tout cas les informations qu'on m'a donné, et je crois que le but recherché, l'amener effectivement dans un état qui lui permette de témoigner, est tout à fait essentiel.
Un dernier mot, est-ce que les terroristes qui ont agi à Londres, est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, ces terroristes soient aujourd'hui en France, certains ont été retrouvés à Douvres, donc auraient pu prendre le bateau pour la France, est-ce que vous avez des informations en la matière ?
Je n'ai aucune information en la matière, nos services communiquent. Pour le moment, ils nous ont dit que la personne arrêtée à Douvres ne voulait pas venir en France. Donc je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Et dans les heures prochaines, bien évidemment, nos services vont communiquer. Vous savez, entre les services britanniques, les services allemands, les services d'un certain nombre d'autres pays, il y a une communication qui est absolument parfaite. Et c'est pour cela peut-être que nous arrivons à éviter beaucoup d'attentats.
Merci Gérard Collomb, c'est la fin de votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous les trois. On se retrouve la semaine prochaine. Très belle journée à tous en ce dimanche.